Fakir, le podcast. Et si on en parlait ? Pour ce dernier épisode de la saison « Et si on en parlait ?», nous avons décidé d'aborder le sujet « Pédagogie relationnelle » ou « Comment s'armer au mieux pour vendre son projet au sein du secteur musical professionnalisant ?». Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Juliette Bossé du groupe Rive et Pablo Fleury, chargé de projet chez Court Circuit et également porteur du projet musical Slamino.
Alors moi je suis autrice, compositrice, interprète dans le projet Rive, donc c'est un binôme d'électropop bruxellois. Voilà, enchantée d'être là.
Merci. Pablo.
Oui, donc moi c'est Pablo et j'ai une double casquette. Mm-hmm. Je travaille pour Court Circuit, qui est la fédération des organisations de concerts en Wallonie-Bruxelles, pour lequel j'ai un rôle de chargé de projet artistique, si on peut résumer ça comme ça. Et je suis aussi musicien et j'ai un projet actuel qui s'appelle Slamino, qui est un projet solo. Entre electronica et rock instrumental.
Quand il y a eu ce moment de bascule où le groupe, donc Rive, était sans accompagnement, et puis le moment où il a été accompagné, si tu peux m'expliquer un petit peu ce qui a changé à ce moment-là, et peut-être un petit peu le parcours du groupe, et comment, allez, de fil en aiguille, on va arriver au propos, comment tu as vécu justement la relation à l'autre et dans le développement du projet.
Oui, alors donc moi, mon binôme Kevin, on a eu beaucoup de projets tous les deux, des projets rock, pop-rock, et le projet Rive, c'était un projet, enfin c'est un projet en français. Et donc nous, on a eu un parcours un peu particulier parce que donc auparavant, on avait beaucoup joué, on avait sorti des albums, fait des concerts, etc. Mais avec Rive, on a juste fait un EP, on a postulé à un concours, du F dans le texte. On a eu beaucoup de prix lors de ce concours. Après, on a eu le concours du Francof, on a eu le premier prix. Et en fait, ces deux concours nous ont vraiment permis de nous professionnaliser. Mais donc, c'est vraiment arrivé tard dans notre carrière artistique, parce qu'avant, donc, on avait évidemment écumé les bars, sorti des albums sur différents labels. On avait une expérience, mais au final, on ne s'était jamais professionnalisé à ce point-là. Les concours, ça nous a apporté, on a eu des prix, donc on a eu donc déjà de l'argent à investir dans le groupe. On a eu des résidences scéniques, donc du coaching scénique. On a eu du coaching aussi à plein de niveaux, donc au niveau de la communication. On a aussi appris un peu comment fonctionnait le streaming. On a, grâce à ces concours, aussi rencontré notre tourneur, notre manager. Et donc, pour nous, ça a vraiment tout changé. On est vraiment passé d'un groupe un peu plus amateur à un groupe professionnel, semi-professionnel. Mmh. Et voilà. Et donc, c'était une deuxième aventure, en fait, au final, qui s'est construite au milieu de notre carrière, quoi.
Mmh. Ok, super. Et est-ce que tu peux un peu me faire part, justement, au fil du temps et au fil de l'évolution du projet, comment tu as vécu la relation à l'autre, la relation au corps professionnel, si je peux dire ça comme ça, entre les débuts, le milieu et aujourd'hui. Comment tu as vécu l'évolution de ça? Qu'est-ce que tu as pu observer en termes de, j'ai envie de dire presque de retour sur investissement, mais de comment aussi tu as appris, j'imagine, par toi-même à communiquer avec le secteur et en voie de professionnalisation?
Alors, moi, je pense vraiment qu'il y a il y a une chose qui joue énormément, c'est la question de la légitimité. Mmh. Et quand on gagne des concours, bah, tout de suite, on est légitime. Ça veut dire que les gens parlent de nous, on existe enfin. Et alors, on peut se permettre de parler aux professionnels. Ils nous regardent aussi d'égal à égal. Et nous, ce n'était pas du tout ce qu'on avait vécu avant. Avant, on allait toujours chercher les contacts. Voilà, on était très isolés. Et donc c'était vraiment hyper difficile parce que on n'était pas, voilà, les gens nous écoutaient pas facilement, on n'avait pas forcément envie d'aller voir ce qu'on faisait. Et là, cette histoire de concours, bah tout d'un coup, les gens nous parlent. Et donc forcément, quand les gens nous parlent, on gagne en confiance. Et la confiance, quand on est artiste ou dans ce milieu qui est quand même un milieu hyper dur, c'est super important. Et cette confiance, elle grandit peu à peu. Et progressivement, voilà, on arrive à trouver sa place, à se permettre de dire les choses, à se permettre aussi de parler aux gens, voilà, de ne pas avoir peur de se présenter, de dire bonjour, moi c'est Juliette Derive, des choses que je ne pouvais absolument pas faire avant. Mmh. Et donc, après voilà, on ne va pas non plus se mentir du tout, c'est un milieu qui est très difficile. Il y a des moments ça va, des moments ça va pas, des moments on parle de nous, des moments on parle pas de nous, et donc forcément on est moins à l'aise dans la discussion avec les gens. Voilà, si on vient de sortir un super album, on peut parler aux gens. Si on sort pas grand chose, on n'a pas trop d'actu, c'est un peu plus compliqué d'aller voir les gens. Et nous avec Kevin par exemple, donc on allait très très souvent en Botanique, on y va encore beaucoup, mais avant d'y aller on fait un petit briefing à chaque fois. Bon, ok, alors si on croise des gens, c'est quoi les infos? C'est quoi les infos? Ok, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Voilà, nous avec Kevin aussi, on est hyper souriants. Vraiment, on s'oblige en tout cas à être de bonne humeur, à être souriant. Si on n'est pas bien, on ne va pas forcément non plus aller dans les lieux où il y a tous les professionnels. Donc, en tout cas, il faut se préparer. Parce qu'on peut croire facilement que le monde de la musique, c'est plein d'amitié. Oui, mais en réalité, on est dans un univers professionnel. Il y a des intérêts de toutes parts et il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Donc, en tout cas, être armé, en tout cas, effectivement, pour affronter tout ça, c'est important. Et puis nous, en tout cas, la chance qu'on a, c'est qu'on est deux. Donc, à deux, bah voilà, les bonnes nouvelles, quand ça se passe bien, c'est chouette. Quand c'est moins chouette, on est deux, on n'est pas seul. Donc, voilà. Mais en tout cas, nous, on a vraiment vu la différence. Et par contre, ça ne veut pas dire que c'est acquis. Pas du tout. Mais en tout cas, on a vu la différence à un moment donné, en tout cas.
Oui, c'est intéressant que tu parles du fait que ce ne soit pas acquis, parce que je pense effectivement que c'est quelque chose... C'est un peu comme la communication réseau aujourd'hui. C'est en mutation et en modulation permanente. Ça ne fait que changer tout le temps. Est-ce que ça évolue ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça bouge. Et donc, effectivement, ce n'est pas acquis. Et moi, ce dont tu parlais à l'instant, ça fait référence à ce que moi, j'appelle la carte de visite orale. Et donc, tu parlais du fait d'apprendre et d'être armé. Mais justement, la question moi, que j'essaie d'ouvrir aujourd'hui, c'est OK, comment? Comment? Parce qu'il y a aussi la question de la subjectivité, évidemment, du projet, comment le projet est reçu, mais qui est la personne qui le défend aussi, quoi. Et on est effectivement de base, au-delà du secteur musical, pas tous armés de la même manière par rapport à l'outil communicationnel. C'est vraiment quelque chose que, moi, dans mon parcours personnel en tant qu'artiste, j'ai pu observer que, effectivement, beaucoup de mes amis avaient des projets merveilleux, incroyables, et ce sont des personnes talentueuses, talentueuses, mais qui avaient presque même une aversion pour le fait de devoir se vendre, et même juste de manière orale, quoi, au-delà du côté communicationnel réseau. Donc c'est vraiment intéressant justement d'aborder cette question-là sous ce prisme-là, parce que je pense que ça rajoute quand même pas mal de difficultés d'accès à la vente du projet, justement. Et du coup, je voulais un peu bifurquer vers toi, Pablo, donc mmh. avec tes différentes casquettes. Donc via court-circuit, tu as pu rencontrer quand même pas mal de projets, de groupes, de duos, de solos. Je voulais un petit peu voir avec toi quels enseignements on pouvait tirer concernant les groupes qui n'avaient pas forcément perduré après être passés par le concours circuit. Est-ce qu'il y avait des patterns, des choses qui reviennent? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent et qui sont liées aux propos qu'on essaye de présenter aujourd'hui, notamment juste à l'attitude, aux personnes concernées? Et si oui, qu'est-ce que tu pourrais en sortir et quels outils tu pourrais éventuellement voir se développer? Alors, c'est beaucoup de questions en une, hein, mais... Mm-hmm.
Voilà. Ouais, bah, moi, je trouvais ça assez intéressant, bah, le profil que tu racontes, Juliette, en tant que gagnante à un moment donné d'un concours. Et c'est vrai que moi, dans mes activités où je suis amené à mettre en place le concours circuit, etc., bah, chaque année, on a un petit peu comme ça une sélection d'artistes. Certains ont mis plus en avant que d'autres, qui vont vraiment avoir une propulsion suite à ce dispositif. D'autres qui vont plutôt stagner, ou ça va prendre une année ou deux de plus, etc. Et moi, si j'observe un pattern, c'est justement le fait de nouer des contacts professionnels en cours de dispositif ou à l'issue de d'un événement showcase comme la finale du concours circuit, où tout à coup, on peut être soit on est approché par des professionnels qui se disent j'ai envie de bosser ce projet parce que je pense qu'il me correspond, je pense qu'il y a des choses à faire. Peut-être de confirmer une prise de contact qui était déjà existante et que la prestation ou le fait qu'il y ait un prix, qu'en fait on voit qu'il y a une émulation, qu'il y a plein de prix coup de cœur qui sont décernés, alors tout à coup les professionnels se disent bah oui, go, j'ai envie de me mettre aussi dans l'élan. Mmh. Donc pour moi, les concours, les tremplins, les dispositifs accélèrent ce processus et moi j'ai tendance à dire aux artistes quelques jours, semaines avant la finale en disant nous, le travail que Court Circuit met en place va s'arrêter d'une façon ou d'une autre après la finale. Mm-hmm. Mais c'est à vous de récolter les fruits de ce travail de visibilité qu'on vous offre et d'entamer vous-même, par exemple, des démarches. Ou si vous recevez des guests, peut-être pas les donner tous à vos familles, mais en fait invitez vous-même des professionnels que nous on n'aurait pas invités mais que vous avez envie de faire venir. Donc voilà, je pense qu'il y a comme ça. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est quand tu dis quand le groupe est en valeur, c'est un bon moment pour s'adresser à des pros, alors d'égal à égal, je sais pas si c'est la bonne formulation, mais en tout cas d'être sous son meilleur jour, quoi. Je le vois un petit peu comme ça. Et effectivement, quand tu as un projet qui va plutôt être dans le creux de la vague, parce qu'il est en processus d'écriture, etc., pour moi, c'est aussi un peu des moments à séquencer en se disant c'est pas maintenant que je vais commencer à aller serrer les mains de tout le monde lorsque j'ai pas vraiment du contenu, quoi. Mm-hmm. Pour moi, le moment qui va être super intéressant, c'est en fin de phase de production.
Vous ne pensez pas qu'en tant qu'artiste qui cherche quand même une forme de reconnaissance forcément et potentiellement de professionnalisation, on n'est pas dans la vente constante de notre projet? Est-ce que du coup, on n'a pas intérêt à être constamment prêt ou prête à pouvoir défendre son projet avec ou sans actualité? Et est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui se joue aussi? Voilà, on est quand même souvent sujet à être dans la rencontre. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à être tout le temps finalement dans la vente du projet? Et si oui, comment? Parce que je vous rejoins sur le fait, effectivement, étant musicienne aussi, que oui, avoir une actualité, bien évidemment, c'est mieux. Est-ce que pour autant, quand on n'en a pas, on doit ne pas pouvoir en parler? Enfin, est-ce qu'on ne doit pas développer d'autres outils, justement, pour pouvoir défendre son projet correctement, en avoir une forme de confiance permanente et donner quelque chose d'hyper crédible? Est-ce que ça ne va pas aussi dans le sens de professionnaliser le secteur et mieux le légitimer parce qu'on travaille tout le temps, en fait, qu'il y ait une actu ou pas? Vous voyez, c'est...
Ouais, je veux bien réagir en premier. En tout cas, peut-être un apprentissage que je me fais aussi à moi-même de ma pratique et de dire que, justement, cette injonction à être tout le temps dans la vente... Mm-hmm. C'est une injonction qui nous vient des réseaux sociaux, où on nous dit en fait il faut poster, il faut faire participer les outils qui sont mis en place. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire c'est de sortir peut-être de cette injonction et de séquencer son travail, séquencer son année, son processus créatif et pouvoir se dire là maintenant j'arrive au bout d'un cycle, j'ai sorti un album, je l'ai défendu. J'ai fait des concerts, j'ai fait des festivals, il me reste encore quelques concerts. Je rentre dans une phase où je n'accepte plus de concerts. Mmh. Je fais de la résidence, je fais de la création. Je me prévois un studio pour dans quelques mois. Et vraiment se dire, en fait, quand on est dans le creux de la vague, on prépare la suite, quoi. J'aime bien ici l'image d'un élastique qu'on tend. Mmh. Et de se dire, l'idée, c'est pas qu'il soit constamment dans... de tendre de plus en plus l'élastique, oui. Pour un moment, quand on le lâche, on sait qu'on a mis le plus de choses possible. Donc, cette injonction à se vendre, et on parlait de rencontrer des pros en soirée. Si je prendrais un exemple, si j'avais la chance de croiser le programmateur d'un gros festival à une soirée et qu'il se trouve qu'on papote, qu'on échange un verre, etc., je ne vais peut-être pas commencer à lui parler de mon projet si je suis juste notamment dans une phase où en fait, mon live tel que je le faisais, je n'ai plus vraiment envie de le faire. mais le nouveau, il n'est pas encore prêt. En fait, j'ai des morceaux, mais c'est des maquettes. Je dirais, c'est peut-être pas le moment où je vais cramer ma cartouche à l'ennuyer avec mon projet.
Moi, ce que j'entends par se vendre, c'est pouvoir aussi, de manière permanente, assurer la crédibilité du projet. Et donc, en pouvoir en sortir une forme de confiance. Sans forcément, effectivement, comme tu disais, en rentrant dans les détails, l'ennuyer avec tout le processus. Voilà, j'ai fait un live, mais c'est plus celui-là aujourd'hui. Mais ça, justement, ça rejoint un peu le propos que j'essaye d'amener aujourd'hui, de mettre en lumière. C'est comment savoir que ce genre de choses ne sont pas forcément pertinentes à cet instant-là, avec cette personne-là. Comment on apprend ça? Et effectivement, il y a un côté où c'est sur le tard, mais super sur le tard. Ça veut dire que tous les débuts de ce tard, eh ben, on risque de perdre des cartouches, effectivement, de perdre des occasions, parce qu'on ne savait pas en fait, qu'il ne fallait pas parler comme ça à ces personnes-là. Et donc, c'est un peu ça que j'essaie de déconstruire aujourd'hui. Juliette, tu voulais peut-être rebondir sur...
Non, moi, je suis vraiment, vraiment d'accord. Vraiment d'accord. Après, je trouve ça toujours très bien d'avoir quelques phrases de préparer qu'on va pouvoir dire tout le temps. Moi, c'est ce que je fais en fait, hein, c'est que j'ai deux trois phrases que je dis en boucle. Ça saoule personne, ça montre un peu ce que je fais. Voilà, ça donne une petite crédibilité, et ça, c'est toujours bien d'avoir ça dans sa besace quand même. Et puis aussi, vraiment très important, mais ça, on le sait tous, hein, c'est être fier de ce qu'on fait, mettre beaucoup de cœur dans tout ce qu'on prépare. Ça c'est quand même la chose la plus importante en fait, parce que c'est quand même faut déjà être convaincu soi-même de ce qu'on propose pour pouvoir se vendre un peu plus tard, ou en tout cas expliquer ce qu'on fait, quoi.
J'ai peut-être un propos qui va peut-être détonner, mais je pense aussi que c'est une façon de dédramatiser beaucoup de choses pour des artistes qui peuvent être vraiment torturés à l'idée de mince, les choses ne vont pas comme je vais, etc. Tu disais, Juliette, toi t'as eu des groupes avant. Et c'est avec Rive où en fait tout s'est mis en place, aussi parce que je pense que toutes les erreurs qui auraient peut-être pu être faites, tu les as fait à un moment avec tes anciens groupes, mais tu les as plus fait avec Rive. Moi, j'avais eu un projet avant qui était, je vais pas dire pas ambitieux, mais qui est vraiment né un petit peu comme ça, groupe de potes, etc., où on a fait un bout de chemin qui était vraiment cool. Et le fait de commencer un projet solo après, en fait, m'a permis de repartir, en fait, de repartir de là où j'étais dans mon groupe précédent, mais avec un peu une page blanche, des contacts déjà pris, des erreurs que je ne fais plus, etc. Donc, si je dis ça, c'est pour aussi un peu dédramatiser l'idée que un projet musical ne doit pas correspondre forcément à une carrière. Et parfois, la meilleure chose qu'on pourrait faire serait de recommencer un nouveau projet. À zéro, avec des compétences qu'on applique dès le début d'un processus créatif, etc. Et y a des projets comme ça qui, en fait, des nouveaux projets qui naissent avec des artistes qui ont du bagage et en fait qui vont aller beaucoup plus loin que toutes leurs expériences passées, quoi.
Oui, après, je me dis que c'est peut-être pas dans les mains de tous. Il faut déjà une sacrée envie, une détermination, une forme de confiance déjà quand même dans l'idée de se dire ok, je recommence un projet à zéro. Je pense que beaucoup, encore une fois de mon observation perso, dans mon entourage et parmi tous les milieux que j'ai pu fréquenter autour des musiques, beaucoup peuvent être vite découragés quand même, parce qu'il faut, il faut aussi à un moment donné comprendre, tiens, mais qu'est-ce qui fonctionne pas? Mon projet est là, j'ai la matière, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et je trouve qu'il y a quelque chose de difficile à expliquer dans ce fameux bagou dont je parlais tout à l'heure, la communication vraiment d'humain à humain. Et encore une fois, qui touche à une forme, enfin, pas une forme, à une concrète subjectivité aussi, quoi. Comment j'ai ressenti cette personne. Voilà, donc moi, dans cet aspect-là, il y a quelque chose qui me pose vraiment question. Et donc, effectivement, recommencer un projet, oui. Mais je pense que vraiment, ce n'est pas donné à tous. Et je trouve que ce serait intéressant de se pencher sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider le plus grand nombre, en sachant que ce n'est pas universel et applicable de manière générale à tout style et à tout milieu, mais au moins pour pouvoir amener les personnes à peut-être à se préparer, à se protéger aussi, parce qu'on n'est pas tous égaux, égales vis-à-vis de ce qu'on reçoit comme, entre guillemets, agression du milieu, parce qu'il peut y avoir une forme d'agression, d'intrusion, voilà, qu'est-ce que tu as à me vendre finalement, fais-moi rêver, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Donc, moi, c'est un peu ça qui m'intéresse, quoi.
Voilà. Mais moi, je pense que, qu'il n'y a malheureusement pas de recette. C'est, les groupes, c'est une histoire de timing. Enfin, nous, on l'a vu. On est arrivé à un moment où il n'y avait pas grand monde qui chantait en français en Belgique. La formule française électropop n'existait pas beaucoup en Belgique francophone, en fait. Et il y a eu un timing, quoi. Il y a eu un truc à un moment qui s'est mis en place et qui nous dépassait. Et donc, tous, évidemment, on cherche des outils, des recettes. Qu'est-ce qui va faire qu'on va m'écouter un moment, qu'on va lire mon mail? C'est des très bonnes questions. De toute façon, il faut se les poser. Et en réalité, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Mais c'est quand même une histoire de... Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et ce que j'aime bien dans ce que dit Pablo, c'est que, par contre, avoir une vraie démarche, organiser les choses... quand même prendre le temps, ne pas vouloir tout faire d'un coup, comprendre à quel moment il faut aller vers les professionnels, ça c'est vraiment intéressant en fait, parce qu'effectivement ça évite de s'épuiser. Sinon c'est l'épuisement, on envoie des mails, puis en fait ça prend pas. Donc réfléchir à la stratégie, ça a vraiment du sens et je pense que ça permet, voilà, de se protéger aussi, parce que les choses sont écrites en amont, on sait ce qu'on doit faire et on n'est pas là à travailler en l'air, à envoyer de toutes parts, on sait envoyer aussi au hasard. L'erreur aussi, et moi je la fais aussi, l'erreur c'est vraiment de vouloir aller chercher trop de gens qui ne vont pas forcément répondre. Par contre, bien cibler les personnes qu'on connaît un peu, qui peuvent être vraiment sensibles à ce type de projet. Il vaut mieux trois personnes un peu sensibles au projet qui vont être là avec toi, plutôt qu'envoyer 40 000 mails et à des gens qui n'en ont rien à foutre et qui ne seront même pas touchés. Enfin, c'est cliché de dire ça, mais moi, je pense que c'est plus sympa et plus vivable aussi de bien cibler, parce que voilà, sinon, on se fatigue trop.
Il y a quand même quelque chose de très important qui se joue dans la rencontre humaine. Mais effectivement, c'est une chouette piste. C'est hyper pertinent, forcément. Quoi. Et le côté éviter de se fatiguer, c'est hyper important aussi.
Je rajouterais juste quelque chose. Moi, oui, je pense qu'il faut, s'inscrire à des stages de chant, des stages d'écriture. Il faut participer. Il faut vraiment, en fait, faut rencontrer du monde. Quoi. Et rencontrer du monde dans des cadres. Parce qu'en fait, voilà, rencontrer quelqu'un en soirée... Franchement, en réalité, qu'est-ce qu'on espère ? Alors que passer 3 jours dans un stage de chant avec d'autres artistes, ou 3 jours à écrire, à faire de la musique, musique en MAO, tout ça, c'est des trucs qui créent vraiment du lien avec les artistes, mais aussi, du coup, on est aussi plus crédible auprès des professionnels. On a fait ce stage-là avec tel ou tel artiste, peut-être qu'il y a un featuring, je ne sais pas quoi.
En effet, en Belgique francophone, vous pouvez retrouver un nombre important de résidences, d'appels à projets, de formations et de stages dans le secteur musical. Vous pouvez les retrouver sur les sites de culture.be, ILASBL, Fakir et également sur la plateforme Court Circuit qui regroupe également tous les appels à concerts, à projets et les tremplins. Vous pouvez également aller jeter un œil sur le site de la Maison des Musiques.
Un réel terrain d'apprentissage de la confrontation à l'autre et de la présentation et de la confrontation de ton projet aussi. Donc ouais, tout à fait. Puis tu as plus de temps, quoi. Ouais, totalement.
Et moi, je rajouterais peut-être aussi tu évoquais des personnes pour qui c'est vraiment une plaie de faire ce travail, d'aller à la rencontre de professionnels, de vendre son projet, etc. Bah, moi, je conseillerais peut-être à ces personnes, si c'est vraiment une plaie, de ne pas le faire alors. De pas que ça devienne maladif de se dire il faut que j'aille à un événement showcase parce que c'est là qu'il y a les programmateurs et que en fait, j'y vais, mais avec des pieds de plomb. Bah, alors autant ne pas y aller, ou alors si on parle plutôt d'un groupe, bah, si une personne est à l'aise avec ça, ou voire même en fait prend du plaisir, parce que plein de gens prennent du plaisir et font leur métier, c'est comme ça qu'on devient peut-être manager, qu'on fait du RP, etc. Mais dans un groupe, si une personne se dit bah, moi en fait en vrai j'aime bien envoyer des mails, discuter, prendre des rendez-vous et tout, bah, cette personne peut endosser ce rôle à elle seule, là où les autres personnes vont prendre d'autres missions, etc. Et si on est plutôt un projet solo, bah alors dans ce cas-là, moi je conseillerais de pouvoir s'entourer d'une personne, d'un ou une managereuse, qui va pouvoir faire ce travail de présenter un projet avec l'avantage que cette personne ne parle pas de son projet à elle. Mmh. Donc ça crée aussi un peu un tampon. Si la personne en face dit écoute, cool, mais en fait, moi ça me parle pas, en plus c'est mal mixé, etc. Je veux dire, si on est en train de parler de ta production où tu as passé des mmh. mois à chanter ton chagrin d'amour, etc., et qu'on te balance ça, bah, c'est dur. Au moins, le manager il va dire ouais, non, lui c'est mort, mais il va pas expliquer quoi.
Et toi, merci. Et au long de ton parcours au sein de Court Circuit, et notamment avec le concours Circuit, est-ce que tu as pu observer justement ça, le fait que des artistes, des projets, des groupes aient été défavorisés dû à leur communication ou mauvaise communication ou manque d'outils communicationnels dans leur développement de projet ?
Défavorisé, je sais pas. Je pense qu'on peut observer des groupes qui, dès les premières étapes de sélection, on voit tout de suite qu'ils sont structurés, ils savent pourquoi ils sont là, ce qu'ils visent, etc. Là où d'autres vont peut-être avoir des bonnes surprises, mais en fait, ils vont faire des premiers concerts via le concours circuit, etc. Et donc, ont encore plein d'autres questions. Mm-hmm. Je pense qu'il y a tout ce qui... Enfin, j'ai plein de choses en tête, mais tout ce qui va être autour aussi, qui peut être important. Je pense à c'est bête, mais des questions de facturation, etc., de pouvoir maîtriser un petit peu tout ce côté administratif aussi pour que ça ne devienne pas un problème lors de discussions. Et c'est aussi à ça que, par exemple, va servir le concours circuit, où moi, je prends un point d'honneur à essayer de mettre à niveau des projets pour qu'ils puissent, par exemple, facturer une prestation via des bureaux sociaux, ou alors évoquer pourquoi pas faire une ASBL si vous êtes un groupe, un collectif, etc. Je pense que tout ça, ça permet aussi de se dire d'avoir confiance en l'état de son projet musical.
Allez, une phrase, un mot, quelque chose que vous pourriez dire à ces personnes, à ces projets qui peuvent avoir vraiment du mal à communiquer sur leurs produits, leurs projets, leur œuvre artistique.
Moi, je rejoins ce que tu as dit, la préparation. Et ça peut se traduire dans plein de façons de se préparer, mais effectivement, à un moment, on se dit, OK, là, j'ai un message à communiquer. La pire chose, par exemple, ça va être de ne pas savoir pitcher son projet. Et alors, je dis ça, moi-même, on me demande de le faire, je galère tout le temps. Mais si quelqu'un te dit, cool, c'est quoi ton projet ? Et tu dis, alors, en fait... Enfin, moi, j'écoute beaucoup ça, mais maintenant, j'essaye de... Enfin, voilà. Donc, c'est ça, la préparation, quoi. C'est pouvoir dire, bah, moi, mon projet, comme j'ai présenté, j'ai dit, bah, moi, je fais de l'électronica mélangée avec du rock instrumental. C'est hyper vague, mais je le retiens. Et ça peut susciter une certaine curiosité. Et après, si on doit développer, là, je vais commencer à m'en mêler les pinceaux. Mais voilà, donc pouvoir pitcher son projet, avoir du contenu de qualité, connaître un peu peut-être un agenda, savoir se projeter en tout cas en disant bah, là je suis à tel stade et d'ici 6 mois il devrait se passer ça, d'ici 1 an je vise ça, et pouvoir en fait communiquer quelque chose à son interlocuteur quoi. Mm-hmm.
Voilà, le coût des résidences, des stages, voilà, de continuer à se former aussi, voilà, se former, rencontrer des gens, vraiment important. Voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas forcément d'autres choses à rajouter. Puis quand même dire, voilà, effectivement, il faut un projet de qualité, en tout cas un projet en lequel on croit vraiment, quoi. Très important.
Et juste une chose, justement, là-dessus, c'est évidemment subjectif, hein, mais toi, qu'est-ce qui motive cette foi, justement, en ton projet ? Parce que je pense que, de mon observation, encore une fois, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont conscience de la qualité de leur projet, mais il leur manque justement ce petit côté « tiens, mais je crois et j'ai la foi », sans savoir où le projet va aller, mais juste avoir cette foi qui est intemporelle, comme ça. Qu'est-ce qui, toi, par exemple, anime chez toi, cette foi en ton projet ?
Déjà la foi de la comme tout, enfin voilà, la foi de la création, le plaisir de créer quelque chose qui me touche, ça c'est vraiment le plus important. Après bon voilà, cette foi elle grandit aussi parce qu'à un moment il y a de l'écho, et voilà, enfin si tu fais quelque chose et qu'en fait il n'y a pas de retour, on comprend. Moi, je comprends à un moment que qu'il y ait moins de voilà, qu'on y croit un peu moins. Voilà, faut s'interroger, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui marche pas. Moi, je comprends ce que tu dis aussi, Pablo, sur le fait revenir à zéro. Enfin, nous, c'est des choses qu'on a faites. C'est une chose qu'on a faite en fait avec Rive. On est revenu à zéro. Et c'était super en fait. C'était super parce que effectivement, plutôt que s'enfermer dans des bourbiers de trucs qu'on défend depuis je sais pas combien de temps, parce qu'il y a une fatigue de toute façon hein, qui vient quand le truc prend pas. Parfois, ça vaut le coup aussi de s'arrêter un temps en fait, hein, de prendre du temps, de s'arrêter, de respirer, de revivre des choses déjà et de voilà et de voir à nouveau ce qui émerge, ce qu'on a envie de faire quoi. Moi, je pense qu'aussi voilà, faire des pauses parfois c'est vraiment super important. Voilà, mais de toute façon, je crois vraiment qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'outils. C'est des contextes et on ne va pas se mentir. Quand il y a de l'écho, c'est plus facile. Et voilà, quand il n'y a pas trop d'écho, c'est plus difficile à défendre. On aura beau être la même personne, hein, être toujours super souriant, super sympa, super avenant. Bah, si ton projet, tu n'arrives pas déjà à le défendre, ça fait déjà quelques mois, quelques années que tu n'arrives pas à le défendre, les gens, ils vont pas t'écouter. Et voilà, donc c'est pas... Il n'y a pas de solution, franchement. Mmh. Par contre, voilà, la stratégie, bien préparer les choses, ça, c'est vraiment important, quoi.
C'est ça. Oui, vas-y, Pablo.
Et du coup, moi, j'allais juste peut-être ajouter, pour les personnes qui nous écoutent encore jusqu'ici, etc. C'est plus sur la question de la confiance. Oui. La question de la confiance en tant que musicien dans son projet, etc., qui peut être... qui peut à un moment défavoriser les personnes à se dire « je dois aller vers les autres », etc. J'avais vu une vidéo YouTube qui parlait de ce sujet et la personne présentait, alors je l'ai sous les yeux, c'est la courbe de Dunning-Kruger.
Et, oui, ça me dit quelque chose.
En gros,
tu m'enverras. Hein,
je t'enverrai. Et en gros, donc, à l'horizontale, c'est un tableau. À l'horizontale, on a les compétences, donc la ligne qui va de la compétence. À la verticale, la confiance.
Okay.
Et en gros, ça montre que lorsqu'on se lance dans une activité, un sujet, etc., par exemple la musique, au début, on a assez peu de compétences, mais on arrive peut-être vite à des résultats, et donc on va vite avoir de la confiance, etc. Donc la courbe, elle va vraiment, elle monte. Plus on continue à développer nos compétences, en fait, plus on se rend compte de l'immensité des choses à apprendre, et notamment dans la musique, où, je veux dire... tout est tellement technique, que ce soit en termes de composition, de production, de diffusion, de marketing, etc. Donc, plus on avance dans nos compétences, plus en fait la confiance chute parce qu'on se rend compte de tout ce qu'il y a à faire. Et c'est seulement en continuant encore à développer ses compétences où on va, à un rythme beaucoup plus lent, récupérer de la confiance pour arriver à un moment, une sorte de plateau, quoi. Et donc, c'est un peu cruel parce que les personnes qui sont les plus compétentes ne sont pas les plus confiantes. Mais je trouve que ça permet aussi de remettre en contexte aussi ses propres incertitudes qu'on peut avoir dans son projet, quoi.
Oui, et qu'on peut établir une forme de moyenne à la progression aussi d'un parcours, quoi. Qu'effectivement, il y a une courbe à un moment donné à dépasser pour arriver à une constante.
C'est
quand même hyper intéressant, quoi. C'est cruel et en même temps, ça dénote quelque chose de commun, je trouve, qui pourrait peut-être aider à un peu harmoniser les outils.
Fakir tient à remercier chaleureusement ses invités ainsi que ses partenaires Playwright, la SABAM et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous vous donnons rendez-vous très rapidement pour la prochaine saison des podcasts Les sujets qui fâchent.